pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Le voile se déchire et la paix armée qui garantit l'ordre capitaliste, patriarcal et impérialiste montre son vrai visage. Celui d'un ordre étatique au service du néolibéralisme autoritaire. Dans la longue histoire des soulèvements de la terre, comme refus de l'extraction, de la dépossession, de l'exploitation et de la dévastation, les politiques de libération des communautés marronnes, les maquis des luttes pour la libération nationale, les ZAD, de Standing Rock à Notre-Dame-des-Landes, toutes les communes, toutes les actions qui défient l'État capitaliste colonial racial incarnent ces coalisations qui agissent pour la protection de communs et mettent en pratique une urgence vitale.
Il nous semble illusoire de penser que l'on puisse construire un monde plus juste et soutenable sans nous réapproprier concrètement nos conditions de vie, c'est-à-dire défendre et reprendre des terres, réenclencher des cycles de subsistance et réinventer localement des collectifs de vie. C'est de cette conscience active que se nourrissent les soulèvements de la terre.
On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la terre. Titre de ce petit bouquin sorti début d'été 2023, dont vous allez aujourd'hui écouter la lecture de 6 textes sur les 40 ici publiés. Cette rencontre littéraire est organisée début juillet, peu de temps après le meurtre de Naël et des nuits d'émeutes de quartiers populaires qui ont eu lieu un peu partout en France. Époque de répression étatique des mouvements sociaux, début juillet, on sort de 7 mois d'une énième série de grèves et de manifs contre la déforme des retraites, mais aussi du carnage de Sainte-Soline, et le sinistre de l'intérieur vient d'annoncer sa tentative foirée de dissolution des soulèvements de la terre. Vous voilà donc dans une ville de province. On se rencontre avec une quarantaine de personnes sur une pelouse, au pied d'un immeuble, autour de ce bouquin. Salut les amis, c'est la voix off. On ne dissout pas un soulèvement.
Je propose à tout le monde de commencer la lecture de ces quelques textes. Préface de cet ouvrage, les auteurs, les 40 voix, sont dans un éventail d'analyses. Ce fameux mouvement, soulèvement qu'on veut dissoudre, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Eh bien, il se bat contre la métropolisation et la bétonisation des terres agricoles nourricières et les derniers espaces naturels. Il résiste de toutes ses forces aux ravages en cours. Il reprend pour mettre en commun et choyer les terres. Il y déploie des expériences communales et coopératives. Il réinvente des formes de vie qui imbriquent subsistance paysanne et symbiose avec l'ensemble du vivant. Voilà ce que cet ouvrage veut porter ici à travers les 40 voix. C'est quelque chose qui va faire se recouvrir des questions qu'on appelle parfois sociales, écologistes, coloniales, postcoloniales, décoloniales. Et donc on va essayer de tisser un fil rouge avec 6 des textes. D'abord, la blessure, texte d'une militante blessée au moment de Sainte-Soline.
Blessure, témoignage de Sainte-Soline. D'un côté, des agents qui ont oublié leurs humanités, tirant au LBD un sourire aux lèvres ou plaisantant sur le nombre de grenades tirées. Un chef, appelé colonel, qui leur demande si elles sont motivées et qui nous qualifie d'adversaires, comme dans un jeu. En face, une foule de personnes de tout âge qui, pour certaines, pensent cette journée depuis des jours, se préparant à une violence annoncée en amont par le gouvernement. Des personnes bien peu armées et trop peu protégées, risquant leur vie pour celle de leur génération et des générations à venir, avançant à corps découvert face à une violence sans nom. Des personnes qui tombent au sol, qui ne bougent plus. Partout, des explosions, des membres tailladés, des visages fracassés, des organes détruits, des vies en suspens, sans certitude quant à l'avenir. Voilà ce que l'État donne comme réponse à une urgence, à une simple volonté de vivre et de préserver le vivant. Je parle dans ce texte de Sainte-Soline, car il s'agit de ce que j'ai vu le 25 mars. Mais je pense à toutes les occasions où policiers, policières et gendarmes mutiles, lycéens, lycéennes, jeunes de quartiers populaires, manifestants, manifestantes de tout horizon et autres personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette liste, mais se sont retrouvées sur leur chemin. Moi, 19 ans, j'ai reçu une grenade tirée par un flic, en plein visage, provoquant la fracture totale de 4 de mes os. Peut-être que je ne devrais pas, mais je m'émerveille de la chance que j'ai eue. J'ai mes deux yeux, mon cerveau ne semble pas avoir été touché, et mes membres sont quasi intacts. Je suis en vie. Quelques centimètres et quelques secondes, le temps que la grenade tombe au sol avant d'exploser. Voilà ce à quoi je dois ma vie. Voilà ce que j'ai risqué pour le simple fait de refuser un système qui s'écroule et qui condamne nos avenirs. Les blessures, traumas et vies mises en danger rendent visible et matérialisent une violence d'État. Une violence banalisée car devenue quotidienne. À des mouvements, on impose dissolution. À un éveil, on impose manipulation médiatique et mensonges politiques. À des rassemblements, on impose barrages et gaz. À des victimes, on impose des accusations. À des convictions, à la moindre contestation, on oppose grenades et balles. Si leur objectif est de dissuader, de punir et ou de briser les forces de plusieurs générations qui se soulèvent, alors j'ai le plaisir de leur annoncer que cela ne fonctionne pas. Il appartient à chaque personne, heurtée d'une manière ou d'une autre, de s'exprimer, ou non, sur son ressenti. Et je ne peux parler qu'en mon nom, car j'ai la chance de pouvoir encore le faire, et parce que j'ai la chance d'aller bien. Mais si par votre faute, j'aurai toujours le sourire de travers, vous ne m'empêcherez pas de rire. Si un os de mon visage sera toujours enfoncé, vous ne m'empêcherez pas de vous tenir tête. Si j'ai pendant plusieurs semaines dû garder les dents serrées, vous ne m'empêcherez pas de parler. Si avec nos vies vous jouez, l'histoire vous le fera payer. Encore une fois, ce n'est pas en mutilant des gamins, des gamines, des manifestants, manifestantes, qu'on étouffe un soulèvement. Mais c'est bien plutôt comme cela qu'on attise une révolte. Certains instants restent gravés dans nos corps et dans nos têtes. Pour certains, certaines, c'est long de s'en remettre. D'autres gardent des séquelles toute leur vie. Je crois que même si elles ne devraient pas et n'auraient jamais dû exister, nous avons le droit d'être fiers et fiereux de ces marques. Elles sont la preuve que nous sommes restés droits et droites et que nous nous battons pour le juste et pour la vie. Elles attestent que la violence ne vient pas de nous, mais bien parce que nous refusons la violence d'État, parce que nous refusons la violence d'un gouvernement et d'un système qui piétine nos présents et condamne nos avenirs. Nous nous prenons de plein fouet la violence d'une institution et de ses agents asservis et soumis à un pouvoir illégitime, tenu par les mains d'une poignée de privilégiés, ne servant que leurs propres intérêts. Si nous étions des personnes avides de violence, comme certains ou certaines cherchent à le faire croire, nous ne nous mettrions pas face aux personnes les mieux armées et protégées, tant physiquement que juridiquement, du pays. Il semblerait que celles et ceux qui ont ça dans le sang en fassent un métier. Nous sommes trop nombreux et nombreuses à être ou avoir été blessés et blessées, mais nous sommes bien plus nombreux et nombreuses que cela à défendre un autre monde, à avoir été présents et présentes dans toutes les luttes victorieuses et à continuer à être mobilisés et mobilisés aujourd'hui malgré une répression tenaçant de moins en moins de limites. De plus en plus nombreux et nombreuses, de plus en plus organisés et organisées, de plus en plus déterminés et déterminés, nous touchons du bout du doigt cet autre monde pour lequel on se bat, cet autre monde qui existe déjà, cet autre monde que nous faisons vivre par la force de nos liens et par la pertinence de nos modèles. On ne dissout pas un soulèvement, on ne muselle pas une foule toujours plus grande. On ne triomphe pas quand on est l'assassin. Ils ne viendront pas à bout de ce que nous sommes. Alice.
Nous soutenons également les quartiers. Nous avons évidemment une pensée pour Naël. Il nous faut maintenant nous interroger sur cet État qui réprime ses citoyens et qui d'abord a été un État colonial et qui sans doute reste un État colonial. C'est le sens du texte de Vergès, Françoise Vergès, que de nous rappeler les racines de l'État français, de son empire, de l'esclavage, du colonialisme et de ce qu'on peut appeler véritablement le racisme d'État en ce moment plus que jamais.
État toujours colonial. Il n'y a pas de soulèvement de la terre sans l'inclusion des siècles d'esclavage et de colonialisme qui posent les fondations d'un racisme environnemental avec leur politique d'extraction, de dépossession, de génocide, de déportation et d'exploitation, ravageant peuples et terres de manière jusque-là inégalée. Des terres sont dévastées, des mines ouvrent grand les veines de la planète, des forêts sont à jamais perdues, des savoirs sont pillés, des villes détruites, des trésors volés, des millions de personnes déportées en esclavage. Les disciplines d'histoire naturelle et de géographie imposent une hégémonie scientifique sur l'espèce humaine et les non-humains. La colonisation post-esclavagiste poursuit cette économie de l'épuisement des corps, des sols, des mers et impose des codes de loi qui nient le droit à la terre et organisent la censure de langues, cultures et pratiques. Des siècles de capitalisme racial, d'impérialisme et de leur inséparable complice, le militarisme, ont construit un monde inhabitable et irrespirable pour des millions de personnes dans le sud global, mais aussi pour les espèces non humaines. Mais ce qu'Aimé Césaire avait saisi, l'effet retour des politiques coloniales, soit leur retour en Occident, fait apparaître l'inévitable expansion de la violence. Ce que l'Occident pensait pouvoir externaliser, guerre, répression brutale, déni des droits, dévastation, assignation à une mort prématurée, revient sur son sol. Et si révolte, révolution et insurrection sont pacifiées en offrant quelques bénéfices de l'extraction aux citoyens et citoyennes de l'Occident, le voile se déchire et la paix armée qui garantit l'ordre capitaliste, patriarcal et impérialiste montre son vrai visage, celui d'un ordre étatique au service du néolibéralisme autoritaire. Mais c'est toujours le sud global qui en paye le prix fort. Des millions d'enfants y naissent avec des maladies respiratoires en plus grand nombre qu'au nord. Plus de personnes y meurent d'air pollué que de toute autre cause. Les armées, les industries fossiles, de l'extraction, du commerce, du digital et de l'agrobusiness y contaminent corps, sol et sources d'eau pour des générations et y déchargent par tonnes leurs déchets toxiques. Les catastrophes climatiques exacerbent ces inégalités structurelles et raciales. Les inondations au Pakistan, le tremblement de terre en Turquie, la pandémie du Covid-19 l'ont encore montré. Les peuples du sud global sont les premières victimes des intersections entre oppression de race, classe, genre, au cœur des crises climatiques et sanitaires. Et ce sont les femmes noires, autochtones, racialisées, les enfants, les non-valides, les trans, qui sont les plus touchés. Les outils de surveillance et de répression, drones, murs, normalisation de la militarisation, politique anti-réfugiés, amplifient la banalisation de la mort des vies qui ne comptent pas, et l'État ne cesse d'élargir le champ de la criminalisation. En France, sous la République, l'État colonial persiste. L'extraordinaire mobilisation à Sainte-Soline et l'incroyable déploiement de forces armées et leur brutalité ne doivent pas nous faire oublier les meurtres de jeunes noirs et de jeunes arabes, la violence coloniale dans l'espace public, les enfants noirs et racisés forcés de se mettre à genoux par des gardes mobiles, la stigmatisation des femmes voilées, l'islamophobie, le racisme structurel, la chasse aux réfugiés. L'industrie nucléaire française repose sur l'extraction de l'uranium au Niger, donc sur la pollution et la contamination. L'industrie de la banane aux Antilles, sur l'empoisonnement pour des générations, des corps, des sols et des rivières par les pesticides chlordécone. En Guyane, une ZAD autochtone s'opposant à la destruction d'une forêt sur une terre amérindienne est réprimée. À Mayotte, la Légion étrangère, installée depuis 1975, protège les intérêts impérialistes de l'industrie fossile. 30% du trafic pétrolier mondial passe par le canal du Mozambique. Sur cette île, où l'eau manque, où la déforestation atteint le niveau le plus élevé de tous les départements de France, où un directeur de l'Agence régionale de la santé propose que l'hôpital offre la stérilisation à toutes les femmes, l'État français répond par des opérations militaires, la rafle, l'expulsion massive et la politique anti-migrants, anti-migrantes. Dans la longue histoire des soulèvements de la Terre, comme refus de l'extraction, de la dépossession, de l'exploitation et de la dévastation, les politiques de libération du communauté marronne, les maquis des luttes pour la libération nationale, les ZAD, de Standing Rock à Notre-Dame-des-Landes, toutes les communes, toutes les actions qui défient l'État capitaliste colonial racial incarnent ces coalisations qui agissent pour la protection de communs et mettent en pratique une urgence vitale. Françoise Vergès.
Des suggestions sur ce qui vient d'être lu ?
On est entre personnes blanches. Peut-être on n'arrive pas encore, peut-être on ne sait pas faire, peut-être... Voilà.
Ce qui explique ça, c'est que les personnes racisées et les personnes des classes populaires sont plus criminalisées que les autres. Donc ils ont encore moins intérêt que les autres à s'exposer à la répression. Ils risquent plus que les personnes blanches ou issues de la classe moyenne. C'est encore plus difficile de s'investir dans des mouvements qui sont aujourd'hui réprimés.
Moi, je viens de Grenoble, qui est une ville avec des QPV très très sale réputation nationale. Et Chirol, notamment, ou la Villeneuve, ou... Et il y a eu des émeutes un peu partout en France, et notamment à Grenoble. Moi, j'y étais. Première fois que j'ai vu un regroupement aussi mixte. Tous les gars du Tchèque sont venus dans le centre-ville, en fait. Dans les quartiers à Échirolles, à Tessère, à Auch, à Grenoble, il y a une grosse majorité de personnes dites de couleur. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec eux pendant ce moment-là. Ils se regroupent, ils agissent, ils réfléchissent, ils manifestent, ils brûlent des commissariats. Enfin, ils sont avec leurs moyens et leurs outils de réflexion. Nous, on a les nôtres, c'est pas les mêmes en fait. Pas les mêmes manières d'agir, c'est pas les mêmes manières de se regrouper, pas les mêmes manières de prendre la parole. Et je pense qu'on gagnerait dans un sens comme dans l'autre. J'ai beaucoup appris d'eux. Et en toute humilité, ce genre de regroupement qu'il y a ici... J'allais dire, n'est pas très attractif, mais c'est vraiment pas le bon terme, en fait. Il faut qu'il y ait une rencontre avec ces populations-là. Il faut pas les attendre. Il faut que nous, on y aille aussi. Après, moi, vendredi, je suis pas allé à Échirolles. Hein. J'ai eu peur. Vraiment. Il y a des armes blanches des deux côtés. C'est pas le même monde, en fait. Ça va être un peu long, mais il faut que la rencontre ait lieu. Voilà.
En effet, on sait bien pourquoi... On n'a pas le pouvoir, en fait, nous tous et toutes, le peuple, c'est parce qu'on n'arrive pas à se mettre tous ensemble et tout ensemble. Moi, je suis donc paysanne, j'habite en milieu rural. J'ai fait une campagne électorale l'année dernière aux législatives, drôle d'expérience pour moi. Et je peux vous dire que dans les milieux ruraux, le Rassemblement national fonctionne bien. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu discuter avec des gens qui votaient pour le Rassemblement National. Et franchement, je pensais que ça allait être douloureux, compliqué. Et en fait, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Moi, je n'ai pas discuté avec des gros fachos qui étaient prêts à me casser la gueule. Hein. C'était des gens qui n'avaient pas de thunes et qui allaient voter RN parce qu'ils ne voyaient pas d'autres solutions. Et... Donc, je suis syndiquée à la Confédération Paysanne et c'est quelque chose... qui me prend du temps, de l'énergie, dans la tête, dans le corps, qui est difficile. On a de la répression et j'ai envie de dire que ça y est, les petits blancs connaissent la répression des gens, des quartiers qui vivent ça au quotidien depuis des décennies et peut-être des siècles même. Est-ce que ça va nous aider à se rassembler? Au moins, ça aurait cette utilité. On ne peut rien faire quand on n'est pas ensemble et à Tours, on essaye de faire avec la conf déjà... On a nos bureaux qui sont au Sanitas. On va faire une expérimentation qui est subventionnée d'ailleurs par la ville. On a eu des thunes pour faire une expérimentation sur la sécurité sociale de l'alimentation. Parce que moi, je vends du miel. Tout le monde me dit c'est cher. C'est cher. Mais sauf que moi, je n'ai pas l'impression d'être hyper riche non plus. Mais moi, ça me fait chier de ne pas pouvoir vendre mes produits à des gens... qu'on pas de thunes en fait. Moi, j'ai pas envie de vendre mes produits de qualité qu'à des gens qui aient les moyens. Donc, on se torture l'esprit pour voir comment nous, les paysannes et paysans de la conf, qui font, je pense, des produits de qualité. En tout cas, c'est quand même l'agriculture paysanne, c'est ça, c'est faire des produits de qualité et que tout le monde puisse l'acheter. Donc, on est en train de monter un projet dans le quartier de Courteline parce que c'est un quartier très mixte en fait. Il y a des étudiants, il y a des gens qui ont les moyens, et il y a des gens qui n'ont pas les moyens et de toutes les couleurs. pour expérimenter cette sécurité sociale de l'alimentation, pour ce vœu pieux, ce rêve que tout le monde pourrait bouffer correctement et que nous, les paysans et les paysannes, on puisse vivre de notre travail et que ça profite à tout le monde. Et si la Confédération paysanne est sur les luttes sociales, soutient tous ces mouvements, ben, c'est pour que justement l'alimentation pour nous, c'est la première façon de prendre soin de soi, que ce soit au niveau de la santé et au niveau de la convivialité. Et on a tous droit à cette alimentation. Voilà.
Du coup, par rapport au quartier populaire, on a tous droit à de l'alimentation. Il faut savoir que du coup, jeudi soir, les dits nuisibles émeutiers ont ouvert le Lidl. Et pendant 4 heures, tout le quartier du Sanitas est allé chercher à manger au Lidl. Les mamans, les enfants, tout le monde s'est servi pendant 4 heures pour aller se nourrir. Voilà.
Enfin, ça m'inspire aussi, je pense aux répressions très très fortes dans les quartiers ces derniers jours, enfin, et depuis longtemps, hein, mais ces derniers jours c'est très visible. Et en voyant un peu tomber, d'abord les gardes à vue, après les procès, après les amendes et pires qui tombent, je me dis qu'il y a aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, peut-être une différence d'organisation au sein des luttes, en fonction de où on vit, qui on fréquente, quels moyens on a aussi à disposition ou pas. Pour lutter, ça m'inspire la nécessité aussi de partager peut-être des savoirs juridiques, par exemple. Il y a sans doute des choses que certaines luttes ont plus développées que d'autres et qu'on peut partager pour aussi protéger des personnes qui sont dans d'autres formes de lutte mais qui ne savent pas spécialement à quoi elles s'exposent.
En fait, moi, j'ai grandi dans le 94-93. Mon père est marocain, ma mère est bulgare. Pour eux, quand ils sont arrivés en France, Leclerc, Lidl, c'était la ruée vers l'or, quoi. C'était un truc de dingue. Et donc, la priorité pour eux, c'était d'abord profiter de, entre guillemets, de la France et de ce que ça avait à offrir. Et effectivement, ça rentrait par l'ultra-consommation, par ce monde qu'on leur vendait, parce que c'est ce qu'on leur a vendu toute leur enfance, quoi, finalement. Donc, faire le pas de l'écologie, c'est un pas de géant à faire. Et en fait, je pense qu'on ne peut pas commencer à s'adresser au quartier populaire par l'écologie en premier, même si ça nous concerne tous. En fait, moi, je suis rentrée dans ces questions-là, en tant que fille d'immigrée, par les sujets d'abord de nutrition. En fait, quand j'ai réalisé qu'il y avait du sucre dans les petits pois qu'on vendait, qui était censé me faire du bien, bah là, j'ai commencé à me dire, il y a un problème. Mais ça prend du temps. Il faut commencer à faire en sorte que les deux mondes se rencontrent, faire en sorte que le milieu urbain rencontre le milieu rural, agricole. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon enjeu aujourd'hui au quotidien. Voilà, voilà.
La rencontre dont on parle, elle n'est pas seulement le fruit de luttes convergentes, elle est une absolue nécessité parce que, depuis quelque temps, on ne peut plus ne plus parler de la terre. On ne peut plus parler des enjeux qui sont liés juste à la vie et donc à la subsistance. Et donc, dans un premier temps, on va essayer de voir avec Isabelle Stengers, par un terme qu'elle a repris de l'Antiquité, le terme de Gaïa, comment nous faire comprendre que nos paradigmes de réflexion politique, comment ces paradigmes-là sont en train d'éclater et nous forcent à tenir comme politique l'intrusion de Gaïa, l'irruption de la force de la Terre elle-même qui est en train de se dérégler, de créer des situations de chaos pour lesquelles évidemment personne n'est préparé et qui nous met au défi à la fois de répondre à ces catastrophes et de prendre soin de nous et d'abord de notre subsistance.
Gaïa se soulève. Parfois, il y a lieu de regretter d'avoir eu raison. Lorsqu'il y a 14 ans, j'ai publié « Au temps des catastrophes », je prévoyais déjà que les responsables de l'ordre public, pris qu'ils étaient dans une histoire dont le seul horizon est l'implacable course à la croissance, ne pourraient répondre que par des mensonges et des faux-semblants à celles qui faisaient intrusion dans cette histoire. La nommer Gaïa, plutôt que d'en parler comme d'un phénomène climatique, c'était faire sentir qu'il ne s'agissait pas d'une simple crise. Quoi qu'il arrive, nous allions désormais devoir apprendre à vivre avec elle en tant que puissance. La terre n'était plus seulement l'exploitable à merci, ni non plus la fragile à protéger. Elle était désormais la redoutable, celle dont le seuil de tolérance aux dévastations capitalistes avait été franchi, celle dont nous ne pourrons plus jamais ignorer l'irascibilité implacable. Car Gaïa n'est pas une justicière. Tous, des récifs de corail ou des escargots aux humains, auront à payer et sont déjà en train de le faire pour les crimes commis par certains. Et malheureusement, promesses mensongères et faux-semblants n'ont en effet pas manqué. Une croissance respectueuse, décarbonée, un monde où les voitures électriques et les avions à hydrogène qui, nous, permettront de profiter de la vie, des champs cultivés par des robots toujours plus sophistiqués, la croissance est servie. Circulez, faites-nous confiance, nous avons votre avenir bien en main. Il est difficile et peut-être inutile de savoir ce qui se passe dans la tête de nos gouvernants. Mais il est devenu assez clair que, en France en tout cas, ils considèrent que leur tâche première est de maintenir l'autorité de l'État, c'est-à-dire notre docilité crédule, synonyme d'ordre public, et qu'il faut gagner du temps, c'est-à-dire de l'argent pour ceux qu'ils servent. C'est sans doute ce que Macron voulait dire lorsqu'il s'est excusé. Qui pouvait prévoir le réchauffement climatique et les sécheresses ? Il faut sans doute entendre qui pouvait prévoir qu'il se ferait sentir si tôt, avant la fin de mon mandat, avant que je n'aie à rendre des comptes. Malheureusement pour lui, la temporalité de Gaïa ne se soumet pas à l'agenda des gouvernements. Gaïa n'attend pas. C'est ce que les scientifiques du GIEC supplient que l'on n'oublie pas. Les objectifs de réduction péniblement négociés, 2030-2050, ne sont que des marqueurs, pas des buts en soi. Le temps que nous perdons est inexorablement perdu. C'est seulement sur ce point que, comme le réclamait Greta Thunberg, il faut écouter les scientifiques. Il faut les écouter en tant que sonneurs d'alarme, car leurs modèles sont muets quant à nos puissances d'agir. Nos gouvernants n'y peuvent rien. Ces puissances sont en train de s'éveiller et de se coaliser sous des formes multiples. Et malgré la répression, même des servants de l'ordre, juristes ou ingénieurs par exemple, sont gagnés par la déloyauté et s'engagent du côté du démantèlement et du désarmement. Le cri qui se propage « Nous sommes les soulèvements de la Terre » est repris par toutes, celles et ceux qui ont compris que Gaïa n'est pas une intruse, mais celle qui donne leurs conséquences à ce qui a été exploité, externalisé, compté pour rien. Et pire, la division sur laquelle le gouvernement comptait, entre ceux qui travaillent et les écolos idéalistes qui ne savent pas ce que c'est que le travail, vacille. Entre « compter pour rien », on peut s'entendre. Jupiter, dit-on, aveugle ceux qu'il veut perdre. Et ici, Macron a peut-être fait l'erreur de trop en croyant pouvoir humilier impunément. Mais il a aussi oublié que les enfants d'aujourd'hui et de demain, dont l'avenir est également compté pour rien, s'engageront à leur tour, quelle que soit la violence de la répression. La terre qui se soulève, c'est aussi le sol qui s'effondre, ce sol de docilité triste sur lequel campent nos institutions. Celle qu'avec d'autres je nomme Gaïa doit, nous l'avons appris, sa singularité de planète habitable à l'intrication toujours plus dense qui s'est inventée entre les activités de ses habitants, aux interdépendances multiples et variées qui se sont tissées entre eux et avec leur milieu. Le « nous » qui s'affirme être la nature qui se défend ou la terre qui se soulève est celui qui lutte contre la destruction systématique de ce tissage vital, contre la mise au travail productif qui réduit tant les milieux terrestres que les manières de faire société à de mornes monocultures sous perfusion. Et le défi alors, pour celles et ceux qui se soulèvent, est sans doute de réactiver et de cultiver les dynamiques de l'interdépendance, d'honorer la joie et l'imagination qu'elles engendrent. De fait, celles et ceux qui, avec la Terre, se soulèvent, le savent déjà. Et c'est, malgré la répression, ce qui les rend indissolubles.
Ce qui fait quelque chose de nouveau également dans la situation, c'est précisément que les paysans se retrouvent en front sur cette question, interrogés, se retrouvent devoir repositionner leur propre activité, se retrouvent être des résistants. Tel est le texte de la Confédération paysanne, paysans qui doivent maintenant être résistants. les historiens ont dû reprendre leurs analyses et regarder de plus près ce qui s'est joué dans cette temporalité depuis 1492 à peu près jusqu'à maintenant. Et ce qui saute aux yeux maintenant, c'est que toute cette période a été une prise de terre. Terme qu'emploie Christophe Bonneuil, une prise de terre, un accaparement des terres. Terme qu'emploie Philippe Descola dans son texte également. Et les paysans, que vont-ils faire? Eh bien, pour certains en tout cas, ils s'engagent dans la voie de la reprise de terre. L'atelier paysan, par exemple, a écrit un manifeste « Reprendre la terre aux machines ». C'est donc à la machine, à la technologie, au technocapitalisme qu'il faut reprendre les terres. Comment faire? Personne n'a la solution et il faudrait y réfléchir stratégiquement. En tout cas, il faut maintenant regarder de près quels sont nos enjeux nouveaux et la question de la subsistance donc nous revient en pleine figure. C'est le texte de Geneviève Pruvot maintenant.
Subsistance. Jour après jour, nous nous enfermons dans un mode de développement dont nous savons pourtant qu'il remet en question l'habitabilité de notre planète et donc notre subsistance à toutes et à tous. Le paradoxe est que cette situation est étroitement liée à une promesse constitutive de nos sociétés industrielles. Régler définitivement le problème de la subsistance, au sens d'en finir avec la faim, la soif, le mal logement et la maladie, en confiant la satisfaction de nos besoins à un système de production de masse fondé sur la synergie entre la science, l'État et le capital. Comme si la question de la subsistance n'était pas vouée, par définition, à se reposer tous les jours pour tout le monde. Cette obsession absurde s'est souvent parée des atours de l'intérêt général, de l'efficacité et de la science. Elle témoigne surtout du mépris pluriséculaire des puissants envers les pratiques de subsistance et les populations subalternes qui les assurent. Elle est aussi l'aboutissement d'un projet politique tenace. Mettre ces populations sous dépendance afin de les contraindre au salariat. Ce projet ne passe pas seulement par l'accaparement des ressources, mais par une véritable guerre contre la subsistance, menée contre la capacité des personnes et des communautés à pourvoir à leurs besoins. Il conduit notre société insensée, qui dévalorise les activités vitalement nécessaires et les populations qui en ont la charge, précarisées, féminisées, racisées, cultiver la terre, faire à manger, fabriquer des choses utiles de ses mains, prendre soin des personnes vulnérables. Injustice sociale dont nous prenons fugacement conscience à chaque grande crise, sans redistribuer équitablement ses tâches. Désormais, c'est une classe de technocrates et d'entrepreneurs, majoritairement masculins et cravatés, qui définit les besoins et gère les territoires, en maintenant les gens concernés à l'écart. La standardisation des modes de vie n'a d'égal que l'artificialisation généralisée des milieux. Tout ce qui fait obstacle à l'optimisation capitaliste des ressources est aplani et écrasé à coups de bulldozers, d'explosifs et de produits toxiques. Outils qui sont indifféremment utilisés par les forces armées, l'agro-industrie et le BTP. La guerre contre la subsistance se mène sur trois fronts simultanés. D'un côté, on disqualifie les savoirs liés à la subsistance, par définition vernaculaire, en les ringardisant ou en les criminalisant. De l'autre, on impose l'idée étrange que la vie est mieux garantie par le développement des échanges marchands et la propriété privée que par l'accès commun aux ressources permettant la subsistance. Enfin, on réprime tout soulèvement contre ce nouvel ordre du monde. La dépossession industrielle use et abuse de violences physiques, réglementaires et judiciaires contre celles et ceux qui n'attendent pas la prochaine élection pour signifier leur désaccord. Même si nous avons largement perdu le contact avec la fabrique concrète de ce qui nous permet de vivre, les pratiques de subsistance et les savoir-faire correspondants n'ont pas pour autant totalement disparu, et encore moins la conscience de leur importance. Nous savons toutes et tous que le travail de subsistance, parce qu'il est lié au vivant et à la nature qui échappe en partie à notre contrôle, ne peut ni se planifier de manière bureaucratique, ni se déléguer à des logiciels ou à des robots. Et dès que nous nous lançons dans une lutte, Que ce soit pour tenir une grève, occuper un site ou organiser un camp, la question du ravitaillement se pose. Son importance est illustrée par un précepte militaire de base. Détruire les réserves de l'ennemi et ses infrastructures de production, lui couper non seulement les munitions, mais aussi les vivres. De même, notre impuissance à freiner ou à infléchir notre désastreuse trajectoire socio-écologique n'est-elle pas liée à notre dépendance totale envers un système industriel qui nous nourrit, tout en sapant à terme les conditions de notre subsistance? Ne faut-il pas trouver les moyens de sortir de cette impasse en desserrant l'étau mental et matériel qu'elle fait peser sur nos capacités d'agir et d'imaginer un autre monde? Il nous semble illusoire de penser que l'on puisse construire un monde plus juste et soutenable sans nous réapproprier concrètement nos conditions de vie, c'est-à-dire défendre et reprendre des terres, réenclencher des cycles de subsistance et réinventer localement des collectifs de vie. C'est de cette conscience active que se nourrissent les soulèvements de la terre. Voilà pourquoi ce mouvement constitue aujourd'hui, dans notre pays, la riposte la plus prometteuse à la guerre contre la subsistance qui fait désormais rage sous la forme d'une politique de la terre brûlée, au sens propre et au figuré. Geneviève Pruvot et Aurélien Berland.
De nouveau, quelques minutes d'échange, d'expérience.
Quand on parle de terre et d'accaparement des terres... J'ai discuté avec les personnes du comité de la conf avant de venir ici et on était heureux et heureuses, je crois que c'est vraiment le mot, de voir que ce sujet d'accaparement des terres, eh ben, il ne nous appartenait plus à nous seuls. Et ça, c'est quand même pas si vieux que ça. On s'est quand même battu un peu et on s'est quand même senti très seul. Et nous, ce qui nous réjouit et nous donne des notes d'optimisme, en ce moment, on se sent positivement dépossédé de ce sujet et ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Et de voir que ces genres de sujets et débats avaient lieu et que ce bouquin entraînait comme débat public, c'était vraiment génial pour nous parce qu'on s'est quand même senti bien seul des années et c'est normal. On est largement minoritaire et on comprend bien que ça ne suscite pas un intérêt comme ça d'emblée. Et pour réagir à ce que tu as dit l'autre jour, on a fait la fête paysanne dans notre ferme l'année dernière. On a organisé un grand banquet et les femmes de l'association Naya sont venues préparer avec nous le banquet. Naya, c'est une association de femmes des quartiers de Saint-Pierre-des-Corps. Mais moi, ça me faisait tellement plaisir de les voir dans ma ferme. Ça me faisait du bien. Elles étaient heureuses. On a passé un beau moment. Et elles sont allées visiter une ferme à côté aussi. Et elles ne sont pas si loin parce qu'on a tous et toutes des origines paysannes dans nos familles et elles se reconnaissaient là-dedans.
Votre installation, elle ne s'est pas faite non plus facilement. Ça a été un combat qu'on a mené. Face à nous, une commission SAFER qui avait décidé de mettre les 100 hectares sur lesquels 4 couples devaient s'installer. On a séquestré un midi le directeur des services fiscaux pour refaire faire la commission SAFER qui était attribuée aux voisins qui prenaient le tout. Et on a réussi à refaire cette commission et à faire que vous puissiez vous installer. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des moyens de faire bouger les choses. Voilà, c'est tout.
C'est pas facile, en fait, de s'installer et de devenir paysan et paysanne. C'est vrai qu'il y a eu aussi un mouvement de soutien et on a pu s'installer grâce à ces soutiens-là parce que seul, on n'aurait jamais pu. On n'avait pas le poids et l'énergie parce que quand on s'installe, c'est difficile. Donc, on a été beaucoup soutenus et ben, on est heureux. Ça fait 12 ans là, qu'on est installés. Et qu'on n'est pas tout seul sur les terres. Il y a une maraîchère aussi, et un viticulteur et un céréalier. Et en bio, c'était une châtelaine. Elle allait acheter les terres vachement plus chères que nous on le pouvait, vachement au-dessus du prix des terres. Pour faire quoi? Peut-être un golf. Elle habite surtout à Paris. Et elle, moi, je balance, hein, c'est le château du Rivaud. Hein. Et elle vient en hélicoptère avec son mec. On n'a pas des super bons relations de voisinage, mais... ils ont quand même vendu notre bière un moment, parce qu'ils étaient en manque de bière à l'été. Mais oui, c'est vrai que c'est pas facile. Et les gens savent pas forcément, mais à la Confédération Paysanne, on a feinté, on a créé une association qui s'appelle l'ADAR. On peut aider des paysans et des paysannes à s'installer, à les former et comme tu disais, juridiquement. Voilà.
En effet, à Tours, il y a un collectif d'associations dont la Confédération paysanne fait partie, un collectif d'associations qui milite pour une sécurité sociale de l'alimentation. On pourrait, avec une carte vitale, non seulement avoir des médicaments et des soins, mais aussi une alimentation à hauteur, avec les modèles qui ont été faits, de 150 euros par personne par mois. Cette hypothèse d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est quelque chose qui veut être issu d'une loi, comme l'a été la sécurité sociale, mais c'est en même temps un collectif qui a aimanté en quelque sorte de très nombreuses initiatives locales dans toute la France. Par exemple, certains avaient constitué une mutuelle pour s'entraider pour l'alimentation. D'autres commençaient à esquisser un modèle proche de la sécurité sociale avec des adhérents. D'autres faisaient des regroupements d'achats, etc., etc. Tout à l'heure, Gaëlle parlait de l'association Naya. C'est une association de Saint-Pierre majoritairement féminine et majoritairement noire. Et donc, quand il y a des rencontres comme celle dont parle Gaëlle, c'est quelque chose de très fort. Ça nous engage à des relations qui nous obligent forcément à déployer en nous-mêmes une empathie renouvelée, élargie. Encore un point, la sécurité sociale de l'alimentation, elle ne va pas se faire par des parlementaires assis dans l'Assemblée nationale. Elle va se faire par des groupes locaux qui vont tenter, avec des gens lambda, de travailler sur plusieurs choses en même temps. Premièrement, quels seraient nos vrais besoins ? Parce qu'il est évident que manger, pour l'instant, ça nous engage vers les grands supermarchés et on ne va pas soudainement trouver, même au marché bio, la quantité d'alimentation dont nous aurions besoin. Mais qu'est-ce qu'un besoin ? De quoi avons-nous besoin ? Et surtout, de quoi dépendons-nous ? Des modes, des habitudes de consommation, bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait initier une démarche qui serait démocratique, dans lequel un groupe engage une démarche d'auto-formation sur toutes les questions liées à l'alimentation. De quoi dépendons-nous ? Est-ce que nous dépendons de l'Amérique latine, de l'Afrique ? Est-ce que nous sommes d'accord pour dépendre de ça ? Donc tous les paramètres très concrets qui expliquent ce que l'on mange et pourquoi sont à re-questionner sous la forme démocratique d'une auto-formation qui va nous permettre de tenter de restaurer en quelque sorte une véritable réflexion sur ce dont on a véritablement besoin. Et peut-être qu'on peut passer maintenant aux derniers deux textes qui nous restent. Sophie.
Donc, soin. Partout, les veines de la terre sont ouvertes et le sang versé. Construction d'autoroutes, bétonisation des terres maraîchères, enfouissement de déchets nucléaires, accaparement de l'eau dans des méga-bassines. L'ensemble des corps individuels et collectifs, sociaux et environnementaux sont mis en péril, sous les assauts répétés d'un système économique et politique mortifère. Le vivant est objectivé et transformé en matière première d'un capitalisme globalisé. Les énergies physiques et psychiques sont capturées pour alimenter les infrastructures d'un corps artificiel qui réitère quotidiennement la coupure entre les humains et leur milieu de vie. Le traumatisme engendré par la multiplication des catastrophes écologiques est renforcé par la répression d'un pouvoir qui cherche à tout prix à maintenir l'unité fantasmée d'un corps national en déréliction. Notre condition contemporaine semble se confondre avec celle d'un grand corps malade parce qu'attaqué et blessé par des siècles d'exploitation et d'extractivisme. Alors partout la terre se soulève pour répondre à ces attaques et nous dire la nécessité qui s'impose de lutter pour défendre les milieux de vie que nous habitons et de soigner les relations qui les constituent. Il ne s'agit plus seulement de protéger des ressources naturelles, ni de gérer les services que nous rendrait une nature considérée comme extérieure à notre condition humaine, mais de nous mettre à l'écoute des autres vivants et de régénérer les attachements terrestres dont nos existences dépendent. Il s'agit de comprendre que nous faisons partie de la Terre et que la destruction des milieux de vie se confond avec celle de nos propres existences. Car la Terre n'est pas le corps propriétaire, produit par l'État capital, ni la machine mise au travail pour la production industrielle. Elle est la trame enchevêtrée et vivante d'une multiplicité de formes de vie, liées les unes aux autres par des relations d'interdépendance et de coaffection. Elle est la chair collective, fruit de siècles de coévolution, de cohabitation et de collaboration interspécifique. Elle est le corps-territoire auquel nous appartenons. Lorsque les féministes amérindiennes et latino-américaines parlent de corps-territoire, c'est pour nommer la relation intrinsèque qui lie leur corps singulier et celui de leur communauté à des territoires multispécifiques. Pour combattre un pouvoir patriarcal et colonial en affirmant la puissance d'un corps collectif, pour défendre et soigner le lien vivant qui les unit aux autres formes de vie. Le défi lancé consiste à tenir ensemble ces deux injonctions apparemment contradictoires que sont lutter et soigner. Soigner en luttant, c'est-à-dire prêter attention aux relations qui nous font tenir ensemble et qui nous font tenir à la Terre. Renforcer nos puissances d'agir en intégrant les dimensions psychiques et spirituelles. Éviter les pièges tendus par le pouvoir qui divise pour mieux régner, qui blesse pour terroriser, qui rend passif et assujetti. Mais aussi faire attention à ne pas devenir nous-mêmes les ennemis de nos propres corps et pour cela, renoncer à la posture viriliste et guerrière d'un combat dont le seul objectif serait la prise de pouvoir. Car il y a là le risque de reproduire le système que l'on entend abolir et de réduire les militantes à des moyens sacrifiables au profit d'une finalité qui les dépasse et que seuls quelques héros seront capables d'atteindre. Il s'agit au contraire de rompre avec cette logique instrumentale en accueillant la singularité irréductible de chaque être, de chaque corps, en écoutant les émotions et les fragilités de chacun, en construisant des réseaux d'entraide et de solidarité, en inventant des rituels de désenvoûtement collectif et des techniques de ruse pour affronter l'ennemi tout en l'esquivant. Lutter pour soigner, pour contribuer là où nous vivons, à tisser et à renouveler les trames de nos corps-territoires. Soigner les milieux en souffrance en revitalisant les terres appauvries et en laissant foisonner plantes et animaux. Dépolluer et désartificialiser les terres en nourrissant les dynamiques écosociales. Réinscrire nos pratiques de subsistance et nos attachements sensibles dans les temps longs des cycles terrestres. Savoir prendre des perspectives autres qu'humaines et imaginer des apparentements multispécifiques en tenant compte dans nos institutions de la multiplicité des voies et des allures qui donnent forme au corps-territoire et par nos alliances interspécifiques incorporer et ritualiser notre condition terrestre. Soigner les luttes, c'est soigner nos interdépendances et nos coaffections à travers des personnifications humains, anguilles, rivières ou humains, tritons, bocages et faire advenir des peuples forêts, des peuples montagnes ou des peuples rivières. C'est transformer notre vulnérabilité en puissance commune et la blessure de l'événement en métamorphose collective.
Joie. L'eau est le nouvel or. Une mégabassine n'est qu'un coffre-fort. L'eau est un marché vital, comme il existe un marché de l'air, des corps, des rares terres, de l'attention qui flue, du bois, du sable, du nu. L'eau se tanque, se stocke, se banque. L'eau se fore, se raffine et se filtre. On la verra bientôt en baril à 100 dollars le litre. Et c'est maintenant que ça commence. Il était une soif, quand le capital parle, il s'exprime avec des lacrymos. Il fait feu pour nous faire taire. Nous, on fait taire autant qu'on peut. Notre joie monte des ruisseaux, des tourbes, des garrigues, des friches. Elle prend souche au sein du tronc où la chevêche niche. Elle est franche sur la crête, comme la course d'un chamois. Elle croit aux castors qui lovent l'eau dans leur barrage amoureux, plutôt qu'aux digues de béton brut qui la forcent vers la mer en laissant le monde sec. Tous les pouvoirs ont intérêt et vocation à nous attrister. Un humain triste se brise plus facilement. La joie, ça fléchit mal, ça ne plie guère, la joie, ça n'obéit pas. Sentir en soi s'amplifier sa puissance d'agir, telle est pour Spinoza la joie. Il était une soif. Le globe ne se réchauffe pas. Il brûle. Il brûle. On est des chipolatas cramés sur une grille d'aération. La mer a la couleur de l'huile. Le ciel sent la merde. Il en a la consistance, les traînées. Il pleut plus. Dieu a tiré la chasse. Alors climatise la forêt. Solutionne. Climatise l'océan. Climatise la banquise. Climatise tes champs. Et surtout, pompe la nappe. Pompe. Face à ça, c'est la colère architecturée qu'il faut atteindre. Trouver en soi la rage du sage. Nos Bassaranes, nos Passaranes. Darmanin, le nain, non mais allô quoi. FNS, EA, c'est trois lettres de trop. Loutarde, vous montonnez, vous tuez pour un cratère. Méfiez-vous de l'eau qui mord, l'eau va couler sous les cons. Pour vous, un brave, c'est un Robocop sur un quad. Pour nous, c'est une enfant encore debout au milieu de vos grenades. Vénère des terres terrestres, vénère des terres terrestres, vous ne nous désagrégerez pas, parce qu'on ne dissout pas l'eau qui court déjà sous nos peaux, parce qu'on a encore assez de chaos. On a encore assez de chaos en nous pour enfanter une étoile qui danse. Voici la fraction armée bleue. Voilà le combat du Womba. Voici le mouvement des jeunes insurgés koalas, la crocodilettante et les baleines qui bossent. Voilà les lézards verts de la ZAD, le caribouc de là, le coyote boycott et le lombric à braque. Oyez le triton à trois tons, sonnant au milieu des ragondingues. Voyez la panthère des nuages, elle feule, nous sommes des castéroéadors. Rouge est notre fourrure pour l'esquive et noire la queue qui fait battre contre vos lanceurs de balles. Nous sommes le filet. La flaque, la mare, la nappe, nous sommes l'averse à l'envers, la source et les geysers. Nous sommes la neige qui fond et la glace dans vos verres. Il était une soif. Ceux qui sont nés de la dernière pluie, ceux qui se jettent à l'eau, ceux qui passent à travers les gouttes, choisis ton comment, choisis ton qui et surtout choisis ton quand. Moi, je crois aux bandes et aux vacarmes fécondes et sarabandes. Je crois aux hardes et aux hordes, aux ruches et aux squads. Je crois aux équipes et aux escouades. J'aime quand l'humain s'épaule et se parle, quand c'est l'amour qui nourrit le pas qu'on fait vers l'autre qui ne le sait pas. Il était une joie, une joue qu'on ne tend pas. Il était une foi en toi, en nous, en l'autonomie de nos 10 doigts. Il était une loi qui dit qu'aucune loi ne justifie qu'un seul t'appartienne, ni à lui, ni à toi. Il était un bois, un verger d'agrumes qui se soulève sous la chape de bitume si tu arraches le macadam avec quelques centaines de bras. Il était une voix, tu ne vois rien, et pourtant tu y crois. Il était une soif qui ne boit pas, qui s'étanche, en embrassant lac et lande, en enroulant la langue qui noue et qui joliment nous noie, la langue de l'eau qui sonne oblongue et fait pousser les mangues au milieu des parkings de Hong Kong. Le vivant n'est pas une mode, un thème, un ADN code. C'est un milieu, c'est un champ qui nous traverse dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique, en tant qu'être humain, ce serait juste d'être digne de ce don sublime d'être vivant et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Faire corps avec le maquis, la forêt, la mer, avec le végétal comme animal, les autres espèces et les autres formes de vie. Se composer avec, les accepter, nouer avec elles, sans berlerficoter. Vous, productivistes, vous êtes la nature qu'on défonce. Vous êtes la terre qui coule, juste avant qu'elle s'enfonce. Vous êtes la lèpre de l'air, la ruine des sols, le mercure dans les sangs. Vous êtes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. Ok, ok, et maintenant ? Maintenant, la seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant qui trépasse, puis repousse, le vivant qui tisse et qui bruisse, vif comme un bond, le vivant qui se détend. Alain Damasio.
Quelques questions, quelques émotions, quelques affects que vous aimeriez partager.
Rebondir sur la phrase de Alain Damasio quand il dit... que la seule croissance que nous supporterons, ce sera celle des arbres et des enfants. Je suis éducateur spécialisé. Partagez avec vous l'immense travail qu'il y a pour supporter la croissance de nos enfants. Moi, je nous invite toutes et tous à être curieux et curieuses sur ce milieu très particulier qui est la protection de l'enfance. Il y a protection dedans. Bah, on dirait pas. Ils sont, je crois, 400 000 enfants placés. Alors, on dit plus placés, on dit autrement, mais Damasio, il le prouve très bien. On fait un petit peu ce qu'on veut avec les mots, justement. 400 000 placés, une liste d'attente longue, peut-être comme le réseau autoroutier de Vinci. Et puis tous les enfants qui sont en souffrance, mais qui sont complètement invisibilisés. Moi, je pense qu'on dépasse le million de gamins en violence en France. On essaye de se regrouper, de trouver des solutions. On a des marges de manœuvre très, très, très petites. Et puis, on est réquisitionné, donc on a du mal à faire grève, on a du mal à se retrouver, on a un peu des horaires à la con. Enfin, mais c'est rien par rapport à ce que vivent les bénéficiaires de ces structures sociales qui perpétuent une espèce de maltraitance latente, très, très inquiétante. On n'en parle jamais dans les médias de ça, on n'en entend jamais parler, on ne connaît pas les situations de ces enfants. Je ne sais plus si c'est 15 ou 25% des enfants qui sortent de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, qui finissent dans des situations de précarité hallucinantes. Enfin, voilà, juste pour qu'on se prépare à beaucoup de travail à cet endroit-là. Voilà.
Je suis arboriste, donc je voulais parler des arbres, puisqu'il vient de parler des enfants. Il y a un groupe national de sauvetage des arbres qui a un grand besoin d'aide. Et le végétal dans le milieu urbain est souvent très malmené, voire mutilé. Et on essaie de justement, avec la Société française d'arboriculture, d'alerter sur le fait qu'un arbre, ce n'est pas un mobilier urbain. Il y a beaucoup de combats à mener avec eux. Ils étaient notamment sur l'autoroute Castres-Toulouse. Des confrères étaient suspendus dans les platanes qui bordaient cette route. Et vous avez également beaucoup de problématiques en Corrèze. Des déforestations qui sont faites à outrance. On ne se suffit plus à recéper un arbre maintenant, puisque 20% des centrales à biomasse sont alimentées par des souches d'arbres. Et les personnes qui exploitent leur forêt, même sur une forêt mixte, ils arrivent à avoir des subventions pour dessoucher et replanter des résineux dans les forêts corréziennes et d'Ordogne, tout ça. Donc il y a encore beaucoup à faire. Et un regard à porter sur le végétal qui a besoin d'être modifié aussi.
Il y a à Tours un collectif qui s'appelle Aux Arbres et qui replante des arbres, et notamment chez des paysans. Aux Arbres, etc.
Moi, je voulais juste dire que ça m'a fait beaucoup de bien, les deux derniers textes, parce que je me suis beaucoup reconnue dans autre chose que des problématiques, parce qu'on ne manque pas de problématiques. Ça me parle beaucoup, cette idée de prendre soin les uns les unes les autres. Je sais, moi, dans mon expérience à moi, que c'est extrêmement important pour moi, qu'après des vécus un peu difficiles comme Sainte-Soline ou autre, que j'avais vraiment extrêmement besoin d'être entourée, d'en parler, de savoir que je n'étais pas la seule à être outrée et aussi à vivre des émotions que je n'avais peut-être pas forcément prévu de vivre. Et alors, les réseaux de soins et les réseaux de joie, je pense que c'est vraiment la base pour moi pour pouvoir être active. D'une manière ou d'une autre.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette rencontre littéraire autour de ce petit bouquin pas cher intitulé « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre ». Émission à réécouter sur notre site, polymixetlavoixoff.com, avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut,
terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.